Activité physique, nutrition, entraînement, santé mentale, expérience de vie. Voici le balado En action. Une production du groupe Défi. Dans 3, 2, 1, action!
Bonjour et bienvenue à En action, notre podcast sur l'activité physique et la santé. Alors aujourd'hui, notre sujet, ça va être l'activité physique comme stratégie d'autogestion de la santé mentale. Il y a des travaux de recherche qui montrent que l'activité physique, c'est efficace en prévention et pour améliorer les symptômes de difficultés mentales comme l'anxiété et la dépression. Alors pour parler de ce sujet-là, je reçois Simon Coulombe, professeur agrégé à l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail, propulsée par Beneva, ainsi que Marie-France Lafontaine, doctorante en psychologie à l'Université Laval. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, ma première question, c'est quoi l'autogestion de la santé mentale? Puis est-ce que vous pouvez nous donner des exemples là, d'autogestion de la santé mentale au quotidien, puis surtout des stratégies au plan de l'activité physique?
Mais merci beaucoup de cette question, puis merci, j'en profite pour vous remercier, te remercier. Je ne sais pas si je peux tutoyer, te remercier de l'invitation, puis tu peux aussi nous tutoyer sans problème. Puis merci aux gens là, qui nous écoutent de prendre le temps de luncher avec nous. Donc, par rapport à l'autogestion de la santé mentale, qu'est-ce que c'est? Bien, je mettrais peut-être une petite mise en contexte, si tu me permets, Daniel. En fait, l'autogestion telle qu'on va en parler aujourd'hui, c'est de plus en plus mis de l'avant comme une stratégie, comme un moyen d'aider à réduire les difficultés, surtout liées à l'anxiété et la dépression. Il y a une panoplie, une diversité de difficultés de santé mentale. Aujourd'hui, on parle surtout d'anxiété, dépression dans le cadre du Facebook Live ici. Il faut savoir que l'anxiété et la dépression, pourquoi c'est particulièrement important de s'en soucier, mais c'est vraiment que c'est parmi les difficultés de santé mentale qui ont la plus grande prévalence, qu'on retrouve chez la plus grande proportion de la population. Là, il y a quelques années, on voyait déjà qu'il y avait environ 3 millions de Canadiens adultes, donc plus de 10% de la population qui rapportait vivre avec un trouble anxieux ou un trouble de l'humeur. Puis ce qu'on a vu même, c'est qu'au fil des dernières décennies, il y a même eu une augmentation, entre autres, là, du taux de la prévalence de l'anxiété. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus prévalent, qu'on retrouve de plus en plus souvent. Et c'est des troubles qu'on caractérise maintenant, pardon, comme étant chroniques, un peu comme des troubles comme le diabète ou le VIH ou d'autres troubles de santé physique chroniques. On reconnaît maintenant que les difficultés de santé mentale ont souvent un caractère chronique, pas toujours. Mais l'idée de l'autogestion, c'est vraiment donc devant les personnes qui vivent avec ces difficultés-là, devant vivre avec des difficultés qui peuvent affecter leur fonctionnement au quotidien, mais peuvent quand même prendre en charge leur santé mentale, peuvent faire des choses au quotidien pour optimiser leur bien-être quand même, réduire les symptômes si possible et prévenir aussi les rechutes. Un peu comme on peut prendre soin de notre santé physique pour chez les personnes qui ont le diabète, etc. Bien, on peut faire la même chose pour les personnes qui vivent avec de l'anxiété, de la dépression. Ça s'inscrit en complément aux approches de traitement qui sont démontrées comme efficaces, là, les approches comme la psychothérapie, la médication, qui selon le niveau de symptômes peuvent être faites, l'autogestion peut être faite en complément à ces approches-là, ou même lorsqu'un niveau de symptômes plus faible dans anxiété ou dépression, bien, l'autogestion puis le soutien à l'autogestion, donc recevoir de l'aide, du soutien pour mettre en place des stratégies dans notre quotidien, bien, ça peut des fois, en contexte de symptômes plus faibles, être efficace en soi. Donc, l'autogestion, au départ, comme je disais, c'était dans le champ des maladies chroniques, mais de plus en plus, on en parle pour ce qui est de la santé mentale. L'idée, donc, c'est vraiment aussi de que les personnes prennent du pouvoir au quotidien sur leur santé mentale, leur bien-être, au-delà là, de simplement suivre les prescriptions d'un expert, que ce soit un psychologue ou un travailleur social ou un psychothérapeute ou un médecin. On a fait des études, mon équipe et moi, mais aussi d'autres chercheurs, là, Jeanne Hill, qui est chercheur à l'UQAM, entre autres, qui a vraiment une grande expertise là, sur l'autogestion. On a étudié... On a demandé en fait à 50 personnes en rétablissement d'un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire qu'est-ce qu'elles faisaient pour aller mieux. Qu'est-ce qui les a aidés? Puis on a identifié qu'il y avait plus de 80 différentes stratégies que les gens mettaient en place. Puis on les a classées en différentes catégories. Je ne vais pas passer toutes les catégories, mais il y a des stratégies, bon, bien sûr, plus fonctionnelles, essayer de se mettre un horaire pour se forcer à reprendre certains, s'activer, reprendre certains rôles sociaux, des stratégies sociales, faire des activités avec les autres, etc. Puis évidemment, il y a des stratégies physiques, justement. Donc, on sait, puis on va en parler tantôt, je pense, qu'il y a beaucoup d'interactions entre la santé physique et la santé mentale. Donc, beaucoup de personnes dans notre étude qui nous ont dit, ben moi, l'autogestion, ça passe vraiment, entre autres, par prendre soin de ma condition physique. Oui, faire du sport et de l'activité physique, mais aussi, ça peut passer par une alimentation plus saine, plus variée, prendre des bonnes habitudes en termes d'hygiène de sommeil, des activités de relaxation, que ce soit guidées ou pas, ou juste prendre du temps pour relaxer, gérer sa consommation d'alcool, de drogue pour limiter les impacts. Puis ça vient beaucoup, l'autogestion, par l'idée de s'observer. Observer quand on fait telle affaire, par exemple, au point de vue de l'activité physique, au point de la consommation d'alcool, ben, comment ça me fait sentir le lendemain? Puis essayer de faire les changements en conséquence dans notre vie. Puis c'est vraiment au-delà même de, oui, des bienfaits qui passent par des mécanismes plus peut-être physiques, là, physiologiques dans le corps de la personne. On va en parler plus tard, mais il y a beaucoup de personnes en rétablissement qui nous ont dit ou qu'on a vu, il y a même des documentaires sur ça, pour qui vivent avec l'anxiété ou la dépression, bien c'est sûr que ça change leur vie, elle doit s'adapter, mais l'activité physique a joué un rôle clé dans le développement de l'espoir de retrouver un sens dans leur vie. Des personnes pour qui la promenade en nature, par exemple, peut vraiment faire un rôle important pour leur permettre de sentir bien au quotidien. D'autres personnes qui ont décidé de tranquillement développer, pas sans le décider nécessairement, mais ont tranquillement développé une passion pour le vélo qui a vraiment amené un sens à leur vie dans leur quotidien, qui leur permet de passer par-dessus ou d'être capable de un peu traverser ces difficultés-là à travers des activités qui leur font plaisir. Puis je vais arrêter bientôt, là. Je pense que je m'envole, mais c'est un sujet qui me passionne. Mais ce qu'on sait, c'est que l'autogestion, ça veut pas dire ne faire seul. T'sais, ça peut avoir l'air individualiste, le terme auto-gérer sa santé mentale, mais c'est aussi recevoir, aller chercher du soutien. Des fois, ça peut être du soutien justement d'un programme comme le défi Entreprise en santé, le soutien même d'assister à une conférence comme aujourd'hui à Facebook Live. C'est toutes des formes de soutien qui, c'est pas du soutien d'un professionnel de la santé nécessairement qu'on voit en individuel, mais qui peuvent nous aider quand même à mettre en place l'autogestion dans notre vie. Donc, faut pas croire qu'autogestion veut dire faire seul. Donc, c'est toute l'idée du soutien à l'autogestion. Puis je finirai en disant que là, je parle beaucoup de difficultés de santé mentale, etc. Mais ce qu'on a vu en étudiant les plus de 80 stratégies que les personnes avec des troubles anxieux et dépressifs ont mis en place, dont des stratégies au plan d'activité physique, ce qu'on voit, c'est que la liste de stratégies, là, elle s'applique pas mal à tout le monde. Donc, elle peut aussi s'appliquer en prévention des difficultés. Donc, pour gérer peut-être un début de symptômes qui sont pas nécessairement atteints à un seuil où on vit avec un trouble, ou même juste pour optimiser sa qualité de vie, son bien-être psychologique au quotidien, l'activité physique puis les autres formes d'autogestion peuvent jouer un rôle important.
Intéressant, juste pour être sûr que je comprenne bien, là, dans le fond, l'autogestion, c'est, mettons, je ressens certains symptômes ou même je veux optimiser ma vie comme tu le dis. Alors là, je vais essayer une intervention par moi-même, puis après ça, je vais essayer de noter c'est quoi l'impact de cette intervention-là, puis après ça, je vais ajuster en fonction de l'impact que j'ai ressenti.
Exactement, c'est ça, c'est rien de... C'est assez nouveau en santé mentale, dans l'esprit où souvent on a été centré sur, bon, quand tu as un trouble de santé mentale, tu vas voir un médecin ou un thérapeute puis te dis quoi faire. Fait que l'idée de reprise de pouvoir est quand même assez nouvelle, mais c'est rien de sorcier. Tu sais, c'est apprendre à s'auto-observer, mieux reconnaître la diversité des stratégies possibles puis des outils possibles. Puis c'est un peu l'idée de développer sa propre boîte à outils puis l'auto-évaluer au fil du temps. Tu sais, ce qui marche cette année pour moi va peut-être pas marcher dans deux ans, selon mon nouveau contexte de vie où j'en suis. Donc, c'est juste des fois, juste être un peu plus conscient. On croit beaucoup à ça, puis je travaille avec un organisme qui s'appelle Relief aussi, puis c'est beaucoup cette idée-là de faire de la psychoéducation pour que les personnes soient plus conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer, puis des différentes options à leur portée pour optimiser leur santé mentale.
c'est vraiment intéressant. C'est drôle parce que, mettons, en physiothérapie aussi, c'est comme les physiothérapeutes enseignent de plus en plus aux gens à prendre en charge leurs blessures musculo-squelettiques. Fait que là, c'est un petit peu la même chose, mais au niveau de la santé mentale. Fait que c'est hyper intéressant que ça se déroule dans plusieurs champs du domaine de la santé en même temps. Si on revient à l'activité physique, ce serait quoi les impacts à court puis à long terme de l'activité physique sur la santé mentale?
Oui, il faut que je réponde à ça. Dans le fond, ce qu'il faut savoir au tout début, c'est que l'activité physique, ça, c'est vraiment une forme de stress au corps humain. Donc, le fait de dépenser beaucoup de ressources énergétiques, ça fait en sorte que notre corps il est stressé un peu d'une certaine façon. Puis donc, durant la séance, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut ressentir beaucoup d'inconfort ou d'anxiété. Donc, parce qu'on transpire, parce qu'on respire plus difficilement, notre cœur bat plus vite. Mais tout de suite après la séance, ce qu'on peut réaliser, c'est que déjà là, il peut avoir des effets sur l'anxiété, puis sur la fatigue. Puis, à plus long terme, on peut voir des effets sur le sommeil, l'anxiété, la concentration, mais aussi sur des symptômes de dépression. Donc, contrairement, par exemple, à l'activité physique, en fait, si on en fait dans le but d'améliorer, par exemple, nos capacités cardiovasculaires, notre endurance, c'est certain que ça va prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour voir des effets. Mais ce qui est intéressant avec la santé mentale, c'est que déjà, après la première séance, on voit déjà des effets bénéfiques.
Parfait. Puis dans le fond, mais par quel mécanisme là, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est parce qu'on a plus de... Est-ce que ça a une influence sur nos neurotransmetteurs? C'est parce qu'on a chaud, puis après ça, on est plus détendu? Comment ça a impact notre santé mentale, l'activité physique?
Oui, bien c'est certain, il y a différents types de mécanismes qui fonctionnent quand on fait de l'activité physique. Si on s'intéresse plus, par exemple, au niveau psychologique, donc des mécanismes psychologiques, une des choses justement que tu avais mentionné par rapport aux sensations, c'est que les personnes anxieuses ont souvent peur des sensations liées à l'anxiété. Donc, tout ce qui est, par exemple, notre cœur qui bat plus vite, là, ces personnes-là peuvent se dire « Ah, oh, je vais faire une crise cardiaque, si j'ai de la difficulté à respirer, ça se peut que je perde connaissance ». Mais ça, c'est toutes des sensations qu'on ressent aussi quand on fait de l'activité physique. Donc, quand on va faire à intensité plus élevée, on peut ressentir beaucoup de sensations similaires à celles de l'anxiété. Puis donc, le fait de faire une pratique d'activité physique comme ça, c'est un contexte qui n'est pas nécessairement anxiogène. Ça nous permet de confronter un peu ces sensations-là, puis de réaliser au bout du compte, c'est pas si dangereux. Peut-être que c'est inconfortable, mais ça va pas menacer ma santé en soi. Donc ça, ce serait un des mécanismes. Puis un deuxième mécanisme, ça s'applique aussi aux personnes qui peuvent être plus sujettes à des symptômes de dépression, c'est que le fait d'accomplir une séance d'activité physique, d'adhérer à un programme d'activité de séance en séance, de semaine en semaine, ça fait en sorte que ça augmente notre sentiment de compétence. Donc, on se sent compétent dans ce qu'on fait, on réussit à accomplir des petits objectifs à chaque séance. Puis ça, c'est un sentiment de compétence qui peut se généraliser après ça dans différents domaines, donc que ce soit dans nos relations sociales ou au travail, par exemple. Donc ça, ce serait plus des mécanismes au niveau psychologique. Puis ça, on regarde au niveau un peu plus neuro, justement, un peu plus physique. Il y a une des choses qui est intéressante au niveau de la dépression puis de l'anxiété, c'est que souvent, il y a des zones du cerveau qui sont légèrement différentes des personnes qui n'ont pas ces problématiques-là. Donc ça, on regarde dans le cas de la dépression, il y a le volume d'une zone cérébrale qui est impliquée dans la gestion du stress puis la régulation des émotions. Cette zone-là, d'habitude, est un petit peu plus petite chez les personnes qui font une dépression. Puis quand on fait de l'activité physique, bien là, ça commence à produire comme des protéines qui permettent de stimuler un peu ces zones-là pour que ça redevienne un peu à la normale. Donc ça, ce serait un des mécanismes là, qui est proposé.
OK. Puis est-ce que le fait que, mettons, les activités physiques soient souvent effectué en groupe ou à l'extérieur, ça peut avoir un impact aussi?
Oui, tout à fait. Le fait justement, en fait, de s'engager dans des relations sociales, ça a été prouvé que ça l'augmente ou ça l'améliore l'humeur. Donc, si on fait des activités en groupe ou on entretient des relations sociales, peu importe le type d'activité qu'on fait, peu importe le sport qu'on effectue, c'est certain que ça va venir créer des changements au niveau de l'humeur, ça va améliorer le bien-être. Puis au niveau oui, Simon, tu voulais dire quelque chose?
Ah non, ben c'est ça, j'allais sauter sur la question du contact avec la nature, mais tu peux continuer, Marie-France, excuse.
Non, vas-y.
OK. Ben oui, il y a plein, tu sais, j'ai pas regardé l'interaction entre contact avec la nature puis activité physique, mais c'est sûr qu'il y a des tonnes de travaux, puis de plus en plus, qui montrent que le contact avec la nature, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, peut avoir un effet vraiment bénéfique en termes de juste chez la population générale, leur santé mentale, mais aussi chez les personnes qui vivent avec des difficultés de santé mentale. Puis il y a même des, je ne sais pas dans le contexte de l'activité physique, mais il y a même des études qui montrent que des gens des programmes de thérapie ou des interventions en contexte de nature versus à l'intérieur, ça aurait des bénéfices additionnels. Donc, il y a lieu de croire là, vraiment que ça peut avoir un effet, que le contact que l'activité physique permet avec la nature peut avoir un effet qui amplifie là, justement les bénéfices de la nature, de l'activité physique.
Cool. Puis si on veut avoir le maximum là, de bénéfices sur notre santé mentale, à la fois en prévention puis en curatif, là, si on peut dire, ce serait quoi la dose qu'il faut viser, mettons, par semaine?
Bien, c'est sûr qu'il y a une dose qui est recommandée pour les personnes là, toutes problématiques confondues, si on veut. Ouais. D'habitude, on recommande de faire 2h30 d'activité physique à intensité modérée par semaine. Ou environ 1h15 à intensité élevée. Donc ça, c'est vraiment comme les lignes de base là, qu'on a pour l'activité physique. Mais si on regarde plus en contexte d'anxiété ou de dépression, ça change un petit peu. Donc, pour l'anxiété, ce qu'on recommande, c'est à intensité moyenne à élevée, évidemment, pour qu'on puisse provoquer un peu les mêmes sensations dont je parlais tout à l'heure, là, des sensations qui ressemblent à celles de l'anxiété. On recommande des séances d'environ 30 minutes à chaque fois. Puis, on demande aussi une durée de programme d'environ 10 à 12 semaines. Puis, pour ce qui est de la séance, j'ai dit 30 minutes, mais c'est certain que ça a déjà été remarqué dans des études que des séances d'une quinzaine de minutes, c'est efficace aussi. Donc, ça serait plus pour l'anxiété. Puis, pour ce qui est de la dépression, la dose est légèrement plus élevée que pour l'anxiété. Donc, on demande aussi une intensité modérée à élevée, mais les séances seraient d'environ 45 à 60 minutes. Puis à une fréquence de 3 à 5 fois par semaine. Puis dans ce contexte-là aussi, environ une dizaine de semaines, là, ce serait efficace pour commencer à avoir des effets durables sur la santé mentale. Mais je pense que c'est important aussi de mentionner à ce point-ci que les personnes qui sont atteintes de problématiques comme l'anxiété, la dépression, souvent ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de sédentarité. Donc, de commencer tout de suite à essayer d'atteindre la dose idéale d'activité physique, ça peut être très difficile. Donc, peut-être que dans ces contextes-là, c'est mieux d'augmenter graduellement la dose d'activité physique, d'atteindre des petits objectifs plutôt qu'une dose idéale. Peut-être qu'un des objectifs, ça pourrait être, par exemple, de simplement réduire les périodes de sédentarité. Quand on est au travail, on se dit à chaque 30 minutes, on se lève un peu, on bouge, puis on revient s'asseoir. Donc, c'est mieux de garder en tête que faire 5 minutes d'activité physique, c'est mieux que de ne pas en faire du tout.
Puis, Marie-France, je m'excuse, je pense que... Tu avais aussi regardé un peu là, les différences selon l'âge aussi. Il me semble qu'il y avait la dose peut-être est efficace ou la dose qu'il faut faire peut aussi varier selon l'âge, j'ai l'impression.
Oui, c'est certain. Mais il y a une étude que j'ai lue récemment qui parlait de ça justement. Puis pour une même dose, une dose faible d'activité physique, ce qui était remarqué, c'est que les gains sur la santé mentale ou sur les symptômes de dépression, c'était meilleur chez les personnes qui étaient âgées que les personnes d'âge moyen. Donc, ce que les auteurs suggèrent, c'est peut-être pas autant en termes de dose, mais le fait que les personnes âgées sont peut-être plus sédentaires. Donc, le fait de faire moins d'activité physique fait en sorte qu'on a des meilleurs gains quand on commence à faire de l'activité physique. Puis, on peut réaliser quelque chose de similaire avec l'anxiété. C'est que pour une personne qui a des symptômes légers puis une personne qui a des symptômes sévères d'anxiété, les effets sur l'anxiété vont être meilleurs chez la personne qui a des symptômes plus sévères. Donc, des fois, ce n'est pas nécessairement la dose, c'est aussi des conditions préexistantes que la personne elle a, comme le niveau d'anxiété ou son âge.
Dans le fond, l'idée, c'est qu'il y a plus de place à l'amélioration. Il y a comme plus de place pour du changement, des bénéfices, parce que les personnes ont déjà plus de difficultés ou en font moins en partant d'activité.
Oui, ouais, exactement.
Puis comment on fait pour savoir, tu sais, tantôt tu disais qu'il faut être à une intensité modérée à élevée, ce serait quoi une bonne façon de savoir si on est à la bonne intensité pour en retirer le maximum de bénéfices?
Oui, ben il y a un test qui s'appelle le test de la parole pour voir l'intensité qu'on fait. Donc, c'est simplement d'essayer de parler ou de chanter pendant qu'on fait l'activité physique. Donc, si on est capable, pendant notre activité, de faire des longues phrases, de chanter, par exemple, on sait qu'on est à intensité faible. Quand on arrive à intensité plus modérée, on n'est plus capable de chanter, mais on est capable de faire des phrases assez courtes. Puis, quand on arrive à intensité très élevée, c'est là qu'on est vraiment juste capable de dire quelques mots, mais sans plus, là, pas des longues phrases.
Puis, est-ce qu'il y a des intensités qu'il faut éviter, là, mettons, j'imagine que peu importe l'activité qu'on fait, ça va toujours avoir des bénéfices sur notre santé mentale, mais est-ce que des fois, mettons, de s'entraîner vraiment comme de façon trop intense, ça peut avoir un effet néfaste, si on veut?
C'est certain que ça peut avoir un effet néfaste, surtout si dans un cas où est-ce qu'on se fixe un objectif puis on ne réussit pas à l'atteindre. Donc, si une personne, par exemple, une personne anxieuse se dit « bon, ben moi, je vais réussir à faire 35 minutes d'activité physique la première fois que je commence », puis que là, elle se met à courir, puis qu'après 10 minutes, elle n'est plus capable, elle sent que les sensations sont trop intenses, mais c'est certain que ça peut être néfaste pour la santé mentale, puis ça peut nuire au sentiment de compétence dont je parlais un peu plus tôt. Donc, c'est certain que c'est peut-être pas autant, c'est certain qu'il faut prendre en considération ses limites physiques, là, de dire que si notre capacité cardiovasculaire n'est pas très, très bonne, très développée, il faut commencer avec des séances un peu plus courtes, puis peut-être à intensité plus modérée. Mais il faut aussi considérer le fait que peut-être le sentiment d'échec ou les objectifs qu'on n'atteint pas quand ils sont trop élevés, ça peut venir jouer aussi sur notre santé mentale.
Fait que dans le fond, il faut prendre tout ça en considération. On peut pas prendre juste l'activité physique puis dire, l'idéal, c'est de faire, 2 heures et demie d'activité physique à intensité modérée à élevée par semaine, puis that's it. Dans le fond, il faut prendre en considération le niveau, disons, psychologique de la personne, à quel point elle est affectée par les troubles de santé mentale qu'elle a en ce moment, mais aussi, il faut prendre en considération sa condition physique puis ce qui est possible pour elle de faire. Fait que c'est quand même... T'sais, la personne, quand elle fait l'autogestion de son activité physique pour aider à traiter ses troubles mentaux, ben, elle a quand même un travail un peu difficile à faire, là, dans le sens que t'sais, c'est pas hyper simple, il n'y a pas de recette qui va s'appliquer à tout le monde. Ça prend un petit peu, faut la personnaliser, la recette, finalement, puis trouver notre propre recette.
Ouais.
Ouais, ça ressemble pas mal à ça.
Ouais, puis je dirais, t'sais, c'est certain que pour une personne qui vit avec de l'anxiété ou une dépression sévère, comment ça serait peut-être une recette différente, là. Puis entre autres, l'anxiété, tu sais, je pense qu'il y a des troubles anxieux pour lesquels c'est pas tant les symptômes physiques qui causent de l'anxiété, mais il y a d'autres troubles anxieux que ça fait partie du trouble, comme France l'expliquait, là, les palpitations, l'essoufflement. C'est des symptômes qui peuvent créer des attaques ou être associés à vivre des attaques de panique, etc. Donc, si une personne a ces symptômes-là de sévèrement, là, si c'est courant, les attaques de panique liées à ça, puis si ça affecte son fonctionnement, ce genre d'attaque-là, ben d'une certaine façon, les travaux scientifiques diraient qu'il faut que la personne s'expose à ces manifestations-là pour s'y habituer. Mais c'est sûr que généralement, lorsqu'on vit ce genre de symptômes-là de façon sévère, généralement, l'accompagnement d'un thérapeute ou d'un psychologue là pourrait être utile pour établir une genre de justement une hiérarchie de peut-être qu'il faut commencer pas par faire de l'intensité de l'activité physique à full intensité parce que là ça va être trop puis ça va nous décourager. Peut-être qu'il faut commencer par s'exposer à ces symptômes là pendant seulement quelques minutes ou à plus faible intensité, etc. Ça devient quand les symptômes tournent autour de les symptômes du trouble là, sont liés aux symptômes physiques qui peuvent être vécu durant l'activité physique, ça devient quand même un peu plus complexe que quand c'est un trouble anxieux, parce qu'il y a des troubles anxieux que c'est plus aussi l'anxiété généralisée par rapport aux finances ou au travail, aux trucs académiques à l'université ou à l'école. Là, c'est quand même un peu distinct de l'activité physique puis de ses symptômes. Fait que là, ça pourrait être une autre paire de manches d'une certaine façon.
Fait que dans le fond, il faut l'adapter à chaque personne, puis comme au niveau de chaque condition, fait que c'est quand même, ça demande quand même un certain défi, mais comme ça peut avoir des bénéfices importants, tu sais, d'un point de vue réadaptation, quand la personne, mettons, elle a déjà des troubles, mais aussi d'un point de vue préventif. Puis d'ailleurs, en lien avec ça, comment est-ce que l'activité physique peut être utilisée en milieu de travail, justement pour prévenir les problèmes qu'on connaît, là, comme le burn-out, les manques d'énergie au travail, des fois on manque de productivité ou des fois on est stressé, on peut ressentir de l'anxiété en lien avec notre travail. Est-ce que l'activité physique, j'imagine que oui, mais est-ce que ça peut être une bonne stratégie dans ces cas-là?
Mais oui, c'est une bonne question. Ça retient l'attention en fait de plusieurs chercheurs. Il y a des études encore récemment, là, j'ai fouillé ça récemment, qui montrent que l'activité physique durant le temps de loisir, c'est associé à moins de sentiments d'épuisement au travail. Épuisement au travail qui fait partie du burn-out ou de l'épuisement professionnel. Par contre, ce qu'on voit aussi dans les recherches, c'est que les gens qui travaillent déjà, dont le travail demande beaucoup d'activité physique, eux risquent de moins en bénéficier là, de l'activité physique en termes de loisirs, là, moins bénéficier de ça en termes de réduction du risque là, d'épuisement. Ça pourrait même ajouter comme un peu d'épuisement, contribuer à plus d'épuisement professionnel. Mais quand même, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que l'activité physique, ça favorisait le rétablissement aussi psychologique. On sait qu'il y a des choses dans l'environnement de travail, comme la charge de travail élevée. Parfois, on n'a pas beaucoup d'autonomie dans notre travail. On n'est pas assez reconnu. Ces facteurs-là, c'est des facteurs de risque pour vivre de l'épuisement professionnel et d'autres troubles de santé psychologique. Et ce qu'on voit, c'est que chez les gens qui font plus d'activités physiques, ça les aide à dealer, à gérer ces stresseurs-là. Donc, sont moins susceptibles de vivre de l'épuisement en réaction à ces stresseurs-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas enlever... Idéalement, on voudrait améliorer les environnements de travail là, pour que ces stresseurs-là soient pas là. Mais c'est sûr que dans certains cas, ou pour le moment, il y a des environnements qui sont plus stressants. Puis l'activité physique qu'on fait pendant le loisir peut aider. Il y a aussi des études qui montrent au-delà de la prévention des difficultés de santé mentale et d'épuisement, l'activité physique a été montrée comme associée à une meilleure qualité de vie, plus de bien-être psychologique et émotionnel chez les employés. Il y a même d'autres études qui ont regardé davantage même les impacts sur plus un peu la performance organisationnelle ou des indicateurs un petit peu plus précis. Une étude récemment qui a été faite où on a donné des accéléromètres là qui mesurent les déplacements faits par la personne, qui est une genre d'indicateur de l'activité physique, un peu comme des fois notre téléphone nous donne les nombres de pas qu'on a fait là, c'est dans la même idée. Puis ce qu'on a vu, c'est que pendant 24 semaines, dans une étude qui a été faite là, par une équipe de recherche, ils ont traqué un peu ils ont monitoré le nombre de pas ou de distance, puis de minutes qui étaient faites à faire de l'activité physique. Et on a séparé les groupes en trois, les participants, des employés en trois, ceux qui en font beaucoup, ceux qui en font moyennement, puis ceux qui en font pas beaucoup. Puis ce qu'on s'est rendu compte, là, c'était que sur une période de 24 semaines, ceux qui étaient dans le groupe qui en faisaient le moins avaient 3,5 fois plus de chances de s'absenter du travail. Donc, l'exercice, ça l'aide à réduire les chances d'absentéisme au travail pour des difficultés de santé. Il y a quand même d'autres études qui ont aussi lié l'exercice physique à la productivité. C'est un domaine encore en émergence. Là, il faudrait plus d'études sur le sujet, mais c'est certain qu'il y aurait quand même lieu de croire là, que l'activité physique, si notamment ça l'aide à un meilleur sommeil, comme Marie-France l'expliquait, ou à d'autres impacts positifs en termes de bien-être, d'épuisement réduit. Donc, on peut croire qu'il y a une meilleure productivité. Puis d'ailleurs, plus en plus de travaux scientifiques, mais aussi de milieux de travail qui, un peu comme dans le défi d'entreprise là, en santé, ben qui mettent en place là, des interventions ou qui veulent soutenir l'activité physique chez leurs employés. Puis il y a quand même de globalement des bons résultats sur plusieurs indicateurs. Puis des fois, c'est pas... Il y a une diversité de programmes, mais de plus en plus, les études montrent que des fois, c'est, oui, des programmes où on encourage l'activité physique de façon plus globale, mais même des interventions dans l'environnement de travail. Donc, tu sais, on parle de plus en plus dernièrement des... Je pense depuis la pandémie, des bureaux là, qu'on peut monter et descendre. Et il y a quand même des études qui montrent là, que ça fonctionne, ça fonctionne en termes de réduire les comportements sédentaires chez les employés. C'est sûr que c'est un champ de recherche qui attire de plus en plus l'intérêt. Donc, dans les prochaines années, je pense que ça va devenir encore plus clair les meilleures pratiques. Mais évidemment, là, les employeurs peuvent jouer un rôle là, en créant des environnements favorables ou en participant à des défis, justement, comme ici.
Effectivement, ben merci. C'est une réponse super complète. J'ai juste une petite sous-question. Est-ce qu'une personne qui fait déjà de l'activité physique dans son milieu de travail, là, de façon professionnelle, je pense à quelqu'un qui travaillerait, mettons, sur la construction, est-ce que cette personne-là a quand même des bénéfices sur sa santé mentale à aller courir le soir? Ou est-ce que, dans le fond, ça rentre dans ce que vous disiez tantôt, puis ça pourrait rajouter un stress supplémentaire qui augmenterait ses risques de souffrir de problèmes de santé mentale?
Je pense que j'oserais pas... il y a des études sur le sujet, mais il n'y en a pas des tonnes non plus. Mais c'est sûr que c'est à prendre avec genre ce que je dirais, avec un bémol, puis je ne veux pas généraliser. Mais puis il faut aussi voir, l'étude en question que je vous parle, c'était, ils ont regardé des gens qui font de l'activité physique au travail, puis ils ont regardé s'ils font en plus d'activité physique le soir comme loisir ou durant la fin de semaine, est-ce que c'est bénéfique pour réduire l'épuisement? Okay. Il semble que dans ce cas-là, non, ça pourrait augmenter l'épuisement. Okay. Mais c'est sûr que l'épuisement professionnel a une dimension physique aussi. Là.
Aussi.
L'épuisement professionnel, le burn-out, il y a trois dimensions. La fatigue physique, la fatigue émotionnelle, puis la fatigue cognitive, là, justement, la mémoire, l'attention, etc. Fait que, tu sais, j'aurais tendance à dire, puis ça serait à vérifier, là, mais que c'est sûr qu'à un moment donné, si mon travail est super physique, puis je fais plein d'activités physiques à l'extérieur, peut-être ça peut, à un moment donné, créer une fatigue physique plus grande. Mais je pense que ça reste à voir, puis je conseillerais aux personnes d'y aller plus en... Ça revient un peu à l'idée d'autogestion, c'est de ouais. voir dans leur contexte, puis dans leur valeurs, ce qui les intéresse. Parce que ça aussi, c'est souvent, les études regardent un échantillon de personnes,
ouais.
mais sans prendre en compte qu'il y en a pour qui l'activité physique, c'est peut-être déjà super facile, puis ça fait partie de leur mode de vie, puis qui trippent, puis qui adorent ça, puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile, puis ça peut ajouter comme une pression supplémentaire. Ouais. Donc, je pense qu'il faut nuancer un petit peu. Ouais.
Ben c'est drôle, puis tantôt je parlais de la physiothérapie, mais il y a dans le dernier podcast qu'on a fait, on rencontrait Karine Gravel qui parlait de nutrition intuitive. Puis dans le fond, c'est un peu la même chose, le même principe, l'autogestion puis la nutrition intuitive, c'est deux principes qui se ressemblent. Dans le fond, elle a dit, mettons, on essaie de manger des aliments, puis on essaie de voir comment on se sent après, puis on adapte en fonction de nos besoins, de nos envies, de ce qu'on aime au goût aussi. Fait que c'est comme, c'est une tendance qui fonctionne un peu pour tout là, de ce que je comprends.
Oui, vraiment, c'est intéressant. Puis, tu sais, je pense qu'il faut comme, en termes, tu sais, je connais plus l'aspect santé mentale, ce qui est intéressant, ouais. c'est aussi de déstigmatiser puis se dire, tu sais, c'est pas tout le monde qui, ça peut paraître, je me dis des fois en 2022, on peut croire que c'est acquis, mais je pense que c'est pas tout le monde qui se donne le droit de réfléchir à comment ils se sentent puis de se dire, ah, j'ai fait ça aujourd'hui, comment ça m'a fait sentir. Fait que je pense que l'éducation aussi à c'est quoi la santé mentale, c'est quoi des symptômes de difficultés de santé mentale, c'est quoi le bien-être, puis jouer un rôle aussi pour aider les gens à être capable de monitorer un peu l'impact de différents comportements ou stratégies comme l'activité physique.
Vraiment intéressant. Là, moi, j'ai travaillé dans un gym, là, puis je sais que c'est difficile pour des gens qui commencent, qui font pas d'activité physique en ce moment, de débuter l'activité physique. Alors, j'imagine que quand, en plus, mettons, tu as une problématique ou un trouble de santé mentale, ça doit être encore plus difficile. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces personnes-là à débuter l'activité physique, puis idéalement même à atteindre la dose recommandée, même si on sait que c'est pas un objectif qu'on va nécessairement atteindre là, dès le départ?
Bien, c'est sûr qu'il y a... Il n'y a pas de recette magique. Puis je vais l'avouer, moi, pour moi, c'est difficile de faire d'activité physique, justement, puis me motiver et tout. Fait que je suis un bon exemple. Puis j'ai de l'empathie puis de la sympathie pour les personnes qui veulent commencer à faire de l'activité physique. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de recette magique. Puis ça, par contre, ce qu'on sait, c'est entre autres pour les personnes qui vivent avec la dépression. Puis je pense qu'on sous-estime des fois faire des petites choses du quotidien, genre sortir les poubelles ou faire la vaisselle ou faire un téléphone, ça peut demander un très, très, très grand effort. Donc, c'est juste garder ça en tête puis se dire qu'il faut reconnaître même les petites choses qui sont faites par la personne en termes d'activité physique. Activité physique, oui, ça peut être des activités structurées ou avec une certaine longueur, mais ça peut être aussi monter, prendre les marches au lieu de l'ascenseur. Ça peut être juste aller faire le tour du bloc. Donc, commencer par valoriser les petites choses, les petits succès, puis reconnaître ce que la personne fait déjà. En fait, il y a même une étude, puis c'est une étude dans un contexte un peu différent, mais vous allez voir où je vais en venir. C'est une étude qui a été faite dans le contexte d'un lave-auto, où on donnait aux gens une genre de carte de membre, puis on leur disait, il y a un groupe de gens, on leur a dit, il faut qu'il y ait 10 étampes à chaque fois que vous venez faire laver votre auto, on donne une étampe, puis il faut qu'il y en ait 10 pour un lavage gratuit. Mais on avait déjà étampé 2 des étampes au départ. Donc, il y en avait juste 8 à vraiment payer pour avoir un lavage gratuit, mais il y en avait déjà 2 d'étampés. Puis un autre groupe de gens aléatoirement choisis, on leur a donné une carte avec juste 8 cases à étamper. Puis il y en avait 0 d'étampés au départ, puis on leur a dit, bon, faut que étampes 8 là, pour avoir un lavage gratuit. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le fait d'avoir donné une carte avec 10 cases, dont deux étant P, avait stimulé davantage la motivation des gens à se prévaloir du concours, à faire, en guillemets, l'effort d'aller au lavoto. Là, c'est pas un effort très physique. Puis qu'il y avait plus de gens qui s'étaient prévalus là, du concours dans ce groupe-là. C'est juste un exemple, mais c'est pour dire que des fois, c'est une question de mindset. Donc, de dire aux gens, ben, regardez, t'en as déjà fait deux des lavages, ça avait fait une différence sur la motivation. Donc, si on l'amène ici dans le contexte qui nous occupe, là, c'est l'idée de dire, ben, regarde, on va avoir une discussion sur qu'est-ce que tu fais déjà comme peut-être des petites choses qui te mettent en action physiquement, puis on va les reconnaître, puis prendre même des fois le temps de l'écrire pour que ça soit très concret. C'est un peu ça aussi l'idée de faire un plan d'autogestion, de mettre sur papier les petites choses qu'on fait déjà ou des fois d'essayer d'aller sur... dans le passé, avant d'être en dépression ou même quand tu étais en dépression, y a-t-il des choses que tu as faites qui t'ont fait d'activité physique qui t'a aidé un petit peu? Pourquoi t'es fait plus? T'sais, on pourrait-tu réactiver ça? Donc, pas nécessairement toujours vouloir réinventer la roue ou aller vers des grosses choses pour commencer. Je pense que ça peut avoir un impact important. Donc, il y a des études d'ailleurs là sur l'importance du mindset pour les impacts positifs de l'activité physique. T'sais, nous, on parle beaucoup dans plein de domaines. Je pense que peut-être plusieurs personnes connaissent déjà l'idée des objectifs SMART. Donc, l'idée de se donner des objectifs réalistes. SMART, c'est pour spécifique. Donc, se fixer au départ un objectif qui est assez précis. Pas dire « je vais aller faire de l'activité physique cette semaine », mais dire « je vais essayer d'aller faire de l'activité physique une fois ou deux ». Mesurable. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'au bout d'une semaine, si on se dit que c'est une semaine d'échéance, on se dise « est-ce que je l'ai fait ou pas ?» Donc, l'idée n'est pas de blâmer la personne, mais juste de prendre un peu le pouls, faire le portrait de la situation au bout d'une semaine pour pouvoir faire un peu le post-mortem et voir ce qui pourrait être fait pour changer la situation. Il faut que ça soit atteignable, à la portée. Donc, mettons, si moi je dis demain matin, je vais courir le marathon, c'est pas à ma portée, je vous le dis. Vous me connaissez pas, mais ce n'est pas. Et il y a aussi réaliste dans le contexte, t'sais. Parce que, bon, peut-être en théorie, ça serait atteignable que je cours le marathon d'ici peut-être un an ou deux, j'imagine. Je connais rien là-dedans, mais réalistement, ça, dans mon contexte de vie, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'y mette du temps que j'ai pas présentement dans ma vie. Fait que c'est ça l'aspect réaliste. Puis finalement, temporellement défini, fait qu'on veut qu'il y ait un échéancier concret. Donc l'idée, puis c'est pas, là ça a l'air compliqué un objectif SMART, mais l'idée c'est que si la personne développe un objectif SMART à la hauteur de un peu de ses compétences actuelles, mais aussi de sa motivation actuelle, puis de ses moyens, de son contexte, mais c'est plus susceptible de fonctionner. Puis il y a aussi plein de travaux qui montrent aussi en termes de motivation l'importance d'y aller avec ses valeurs, les choses qui font du sens pour nous. Par exemple, si moi je suis une personne qui valorise beaucoup la famille, puis un peu moins le travail, puis c'est normal, là, ça varie d'une personne à l'autre, nos valeurs, nos priorités, mais peut-être qu'une activité physique en famille ou qui me permet de voir, peut-être prendre des marches ou faire une activité avec un membre de la famille va être davantage susceptible de stimuler ma motivation puis de la maintenir qu'une activité au travail, et vice-versa, évidemment. Puis finalement, souvent... c'est le concept d'activation comportementale. Parce que les personnes qui vivent la dépression, c'est difficile de s'activer, mais c'est montré que si la personne s'active, fait des choses au service de ses valeurs, ça a un effet positif. Donc, des fois, les gens vont avoir tendance, puis c'est Marie-France qui a trouvé cette information-là aussi, là, j'en remercie, mais on va tendance à dire « je suis trop anxieux ou déprimé, fait que je peux pas aller faire de l'exercice ». Une raison, tu sais, on a tendance à voir ça comme une raison, mais au final, c'est une raison de pourquoi on devrait le faire. Il y a tellement de bénéfices démontrés. Mais c'est sûr qu'au final, le but, c'est sûr que les personnes qui vivent de l'anxiété, de la dépression, souvent ont tendance à se culpabiliser pour ce qu'ils vivent. Donc, on ne veut pas rentrer dans un cycle de culpabilisation, là, de dire « ah, ben là, je voulais faire de l'exercice, je ne l'ai pas fait », parce que ça va juste, ça va empirer la situation. Donc, il y a comme un équilibre à atteindre entre les des objectifs, puis se motiver, puis se dire « oui, on devrait le faire, ça serait bon », mais l'idée, c'est d'aller chercher la motivation de la personne et non d'aller chercher des... Tu sais, c'est pas le fait de savoir, comme moi, je sais que c'est bon, l'activité physique, mais ça ne me motive pas à le faire nécessairement, tu sais. Je rajouterais pour finir qu'évidemment, il y a des... Tu sais, nous, quand on fait le plan d'autogestion, si vous allez sur Google, vous tapez « aller mieux à ma façon », vous allez arriver sur un site pour vous aider à faire un plan d'autogestion de la santé mentale en prévention ou pour les personnes qui vivent des difficultés, dont il y a une partie qui peut porter sur votre santé physique, l'activité physique. Mais on vous amène dans cet outil-là, c'est gratuit, à faire un plan d'entier des stratégies que vous pourriez mettre en place, mais surtout aussi les obstacles, les facilitateurs. Tu sais, le cerveau humain aime pas ça. Si on prend en compte les obstacles d'avance et on essaie de les éviter, c'est plus simple, puis ça contrarie moins notre cerveau, entre guillemets, que si je suis stressé, il faut que j'apprenne mon exercice, puis je me rends compte que la météo est pas bonne, puis que j'ai pas d'autres options, je vais être plus au dépourvu, puis je risque de pas le faire, mon exercice, mon activité physique, versus si j'avais peut-être planifié que dans un cas de température mauvaise, je ferais telle chose. Donc, pensez aux barrières manque de motivation. Des fois, moi, je sais que si, mettons, j'ai bu de l'alcool vendredi soir, le samedi matin, me lever, ça va être plus difficile. Fait que je vais peut-être essayer de pas mettre mon activité physique le samedi matin ou de boire moins d'alcool le vendredi soir. C'est deux options. Mais de penser à ces choses-là, puis l'écrire, ça peut faire une différence. Puis finalement, je finirai avec les facilitateurs. Souvent, pour plusieurs personnes, pas pour tout le monde, mais les activités de groupe avant un genre aussi de body, de système que si on a quelqu'un qui fait un peu le même but, fait de l'activité physique avec nous, mais on va se sentir un peu redevable de se présenter, de faire l'activité physique. Mais il y a des études qui montrent quand même là, des bénéfices de ça, que ça avoir un genre de système du genre, ça améliore l'adhésion là, à l'activité physique. C'est ça. L'idée, c'est rien de sorcier, c'est de faire un peu le tour de c'est quoi qu'est-ce qui peut mettre en péril notre projet de faire de l'activité physique, puis qu'est-ce qui peut le faciliter. T'sais. Alors voilà.
C'est toutes des bonnes stratégies. Si je reviens là à l'outil interactif, là, dans le fond, on va mettre le lien là, dans la description, mais c'est un outil là, qui n'est pas juste pour l'activité physique, là, c'est en général là, pour améliorer notre santé mentale puis notre auto, pour mieux gérer nous-mêmes notre santé mentale. C'est ce que je comprends?
Oui, à l'EMIA, ma façon, c'est basé sur des recherches de Janie Hull, puis je fais partie de l'équipe aussi, là, mais il y a plein d'autres chercheurs, et aussi des personnes qui vivent avec des troubles anxio-dépressifs ou bipolaires, puis qui se sont rétablis, qui sont en rétablissement. Donc, l'idée, c'était d'aller chercher leur stratégie. Puis sur la base de ça, on a fait un outil pour aider les gens à, des fois, se donner des idées de différentes stratégies, mais surtout aider les gens un peu à structurer leur réflexion sur quelle stratégie ils font déjà, qu'est-ce qu'ils pourraient essayer, puis comment les mettre en place avec un genre de, justement, créer un objectif, penser aux barrières, facilitateurs. Puis sur le site aussi, si vous googlez, là, pardonnez-moi l'anglicisme à la meilleure façon, sur le site, vous allez voir aussi une liste de ressources. Donc, je me rappelle pas exactement le nombre de stratégies, mais il y en a plus qu'une cinquantaine de stratégies, dont de l'activité physique. Puis pour chacune des stratégies, il y a même des liens vers plein de ressources connexes en ligne qui peuvent vous aider. Puis c'est un compte, vous pouvez vous créer un compte gratuitement, puis l'idée, c'est d'inviter les gens à retourner de façon régulière, mettre à jour leur plan d'autogestion en fonction de ce qui arrive dans leur vie, de leur goût, leur préférence, qui change au fil du temps.
Crème, ben, merci beaucoup. C'est vraiment, je l'ai pas encore consulté, là, mais ça donne le goût d'aller le consulter comme pour aller mieux, finalement, optimiser notre vie, fait que c'est très intéressant, puis... Merci pour votre participation à vous deux là, à ce podcast-là. Très apprécié. Je pense que ça va donner plein de bons conseils là, aux différentes personnes qui participent au défi entreprise ou pas. Là, parce que dans le fond, comme vous le disiez, là, l'activité physique en entreprise, en groupe, d'une façon structurée comme ça, ça peut convenir pour certaines personnes, puis ça peut être moins néfaste, si on veut, pour d'autres personnes. Puis ça, tout ça, c'est bien correct. Dans le fond, faut juste se connaître soi-même. C'est ça que je retiens. Là, essayer de se connaître soi-même, de savoir ce qu'on aime en lien avec l'activité physique, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît moins, puis de tendre vers des activités qui nous plaisent puis qui nous font nous sentir bien. C'est un peu... C'est, mettons, résumé en termes de kinésiologue, ça ressemble à ça, mais...
Ben ouais. Oui. C'est ça, puis tu sais, je pense que c'est... Au final, c'est juste peut-être penser un peu aux mêmes questions que des fois, j'imagine, Daniel, comme kinésiologue, tu penses avec des clients ou des c'est juste les pensées des fois en portant un peu l'attention sur la santé mentale ou le bien-être. Ouais. Mais au final, on peut aussi voir le bien-être comme étant un plus holistique, global. Puis ouais. Là, on a parlé de santé mentale aujourd'hui, mais je pense que ce serait intéressant de penser autogestion de la santé plus globale, puis de se dire qu'est-ce que je peux faire qui va me faire du bien à la fois à ma santé, mon bien-être physique, puis mon bien-être plus mental, psychologique. T'sais.
Exact. Ben, parce que, tu sais, dans le fond, tous les humains, on a un peu le même objectif. Là. Dans le fond, on veut vivre notre vie d'une façon la plus satisfaisante possible. Là. Et ça, c'est vrai que tu as un trouble de santé mentale ou pas. Là. Dans le fond, on veut essayer d'optimiser notre vécu ici. Fait que c'est, si on peut se trouver des outils pour y parvenir, ben c'est l'idéal, je pense. Alors, ben, sur ce, ben, merci beaucoup, Marie-France. Merci, Simon, pour vos interventions. J'espère que ça va... vous avez apprécié ces interventions-là, que ça va vous donner des outils, soit pour vous aider vous-même ou pour aider un collègue, un ami, un membre de votre famille. Puis, ben, je vous dis à la prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.
Salut. À la prochaine.